Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
On en sait effectivement plus sur ce paquet pouvoir d'achat que le gouvernement prépare. Loyer, intéressement minima, salariaux, les échos détaillent en partie ce matin les mesures attendues. D'abord, Raphaël Couder, la revalorisation d'un très large éventail de prestations sociales.
Oui, une augmentation significative de 4% qui va concerner toutes les prestations indexées sur l'inflation. C'est un très large spectre qui est visé. Il comprend d'abord, et ce sera d'ailleurs la mesure la plus coûteuse, les pensions de base de retraite et le minimum vieillesse, mais aussi le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales et encore l'allocation adulte handicapé, des prestations qui ont déjà toutes été revalorisées entre janvier et avril dernier. Elles augmenteront donc de nouveau de 4% au 1er juillet prochain. Rien que sur cette mesure, l'addition va s'élever à plus de 8 milliards d'euros d'ici au printemps prochain.
Alors moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Les retraites complémentaires n'augmenteront pas avant l'automne, et sans doute pas de 4%. On va poser la question au directeur général de l'AGIRC Arco, François-Xavier Celleret, qui sera nos invités à 7h45. Mais que fait l'AGIRC Arco? Alors, autre élément, évidemment, de ce projet de loi pouvoir d'achat, le plafonnement de la hausse des loyers.
Oui, le gouvernement veut éviter une flambée des loyers. Il a donc tranché pour un bouclier qui va plafonner leur augmentation de 3,5% jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. L'idée, c'est de préserver les locataires de l'envolée des prix, parce que l'indice de référence des loyers qui fixe, vous savez, l'augmentation annuelle autorisée par les bailleurs, eh bien cet indice, il est indexé sur l'inflation. Sans cette mesure, la hausse des loyers aurait donc été bien plus conséquente, de l'ordre d'au moins 5% en mars prochain. Dans le même temps, les APL vont être elles aussi revalorisées de 3,5%, une mesure qui va coûter 168 millions d'euros. Tout ça, ça devrait permettre à un ménage qui paye environ 800 euros par mois pour son logement d'économiser environ 200 euros en tout à la fin de l'année.
Et puis c'est l'occasion de mettre en musique cette mesure, hein, cher Emmanuel Macron, en favorisant un meilleur partage de la valeur dans l'entreprise.
Oui, un article de ce projet de loi va inciter à la mise en place de l'intéressement dans les PME, les petites et moyennes entreprises, dans lesquelles ce dispositif a encore du mal à prendre. Il sera désormais possible de recourir à une décision unilatérale en cas d'échec des négociations. Par ailleurs, la durée maximale de l'intéressement sera allongée de 3 à 5 ans. Enfin, dernier point de ce projet de loi, il va permettre de fusionner de force une branche qui tardera à prendre en compte les hausses du SMIC, une façon d'inciter les partenaires sociaux à négocier davantage et plus régulièrement sur les salaires.
Merci beaucoup Raphaël. Et puis évidemment, ce projet de loi va faire maintenant l'objet, enfin dans quelques jours, d'intenses tractations, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'Assemblée nationale. Pas de majorité, il y aura beaucoup d'amendements, il y aura beaucoup de dépenses en plus certainement. Et en tout cas, en plus, dans un contexte où les experts de l'Assemblée sont de moins en moins nombreux, en tout cas, il faut les dénicher, c'est ce qu'a essayé de faire Thomas Asportas.
La commission des finances a perdu plusieurs figures clés de la précédente majorité battue aux législatives, à commencer par le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, pro et bosseur de l'avis général des autres commissaires. La commission voit aussi partir son ancienne vice-présidente, Sandra Motin, et une fiscaliste de métier, Bénédicte Pérol. C'est elle qui tenait les élus de la majorité au sein de la commission. Et puis la Chambre perd ses deux gardiens du temple, les deux derniers présidents de la commission des finances, Gilles Carrez, qui ne s'est pas représenté, et Éric Woerth, qui ira siéger aux affaires étrangères ou à la défense. Les rangs sont décimés, résument deux piliers de la commission qui ont survécu aux législatives, le vétéran Charles de Courson et le numéro 2 du Modem Jean-Noël Barrot. La commission a perdu gros, ajoute ses deux élus, et pour l'instant nous ne voyons pas qui va venir la renforcer. Un seul profil est identifié à ce stade, le nouveau député Mathieu Lefèvre, ancien conseiller de Gilles Carrez. Mais d'autres émergeront, rassurent les experts budgétaires. De plus en plus de députés veulent maîtriser le sujet pour peser sur les prochaines lois de finances.
Bon, ils ils ont parlé d'une seule voix. Et c'est assez rare d'ailleurs. Les patrons de Total Energy, d'EDF et d'Engie. Un appel hier dans le JDD à limiter immédiatement la consommation, réduire la consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent, disent-ils, la cohésion sociale l'hiver prochain.
Comment fait-on quand on est le premier consommateur d'électricité en France, c'est-à-dire quand on est la SNCF, pour faire face justement à cette hausse des prix? Comment sécuriser ces approvisionnements? Comment couvrir ces contrats à terme? Élément de réponse, Jean-Baptiste Huette.
La SNCF parvient à contenir la facture. Le groupe applique pour cela une politique de couverture en achetant son électricité 2 à 3 ans à l'avance. Cette année, 95% des besoins sont déjà couverts. Les 5% restants, achetés sur le marché spot, devraient coûter quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires. L'an prochain, la facture pourrait être plus salée. Si 75% des besoins électriques sont déjà couverts, les 25% manquants pourraient cette fois coûter quelques centaines de millions d'euros. Avec une facture annuelle qui atteint les 1,2 milliards d'euros, la SNCF est le plus gros consommateur d'électricité en France. Il s'agit donc de traquer la moindre dépense d'énergie. L'opérateur a par exemple généralisé l'éco-conduite. Les cheminots coupent les moteurs dans les descentes. À bord, les LED ont remplacé les ampoules classiques et désormais, les portes se referment automatiquement lorsqu'un train est en attente à quai pour éviter les fuites de clim. Il s'agit également de mettre à profit le foncier et les toits des gares pour installer du photovoltaïque. Autant de mesures qui permettent, pour l'instant, de ne pas répercuter la hausse des cours sur le prix des billets.
Aux États-Unis, après cette décision de la Cour suprême sur l'avortement, ce recul, plusieurs grandes entreprises prennent position. Elles s'engagent à rembourser les frais médicaux et à payer les déplacements de leurs employés vers les États où l'avortement va rester autorisé. On trouve à Washington Antoine Lard.
Oui, une trentaine de grandes entreprises américaines s'engagent concrètement pour le droit à l'avortement. C'est le cas des GAFAM, mais aussi de certaines banques comme JP Morgan, des studios Disney, Warner, Netflix ou des marques emblématiques Nike ou Starbucks. Tous ces grands groupes ont une approche très pragmatique après l'arrêt de la Cour suprême. Ils annoncent qu'ils vont aider financièrement leurs salariés qui auraient besoin de se faire avorter en payant l'opération, mais aussi les frais de voyage et d'hébergement. Ça, c'est un point très important parce que dans les États où l'avortement est désormais illégal, certaines femmes vont devoir parcourir des centaines, des milliers de kilomètres pour trouver une clinique. Tous ces frais, ces remboursements de frais sont désormais inclus dans les assurances santé des entreprises. Alors ces grands groupes potentiellement risquent très gros parce que dans certains États, les lois anti-IVG sont très strictes et prévoient des poursuites pénales et des peines de prison pour toute personne qui aide les femmes à avorter. Le patron de Yelp assume et dit que le risque mérite d'être pris. La plateforme de VTC Lyft de son côté annonce qu'elle remboursera les frais de justice de ces chauffeurs qui seraient poursuivis pour avoir transporté une femme dans un autre état afin d'avorter.